Bonjour à tous et bienvenue dans L'Art, c'est les autres. Moi, c'est Leslie Lucier et je fais partie du réseau des artistes Pigeons et Hirondelles qui est basé dans Lyon. Dans ce podcast, je vais à la rencontre des acteurs du monde de l'art. Ce sont des passionnés qui vont nous aider à décrypter les milieux de l'art contemporain. Pour tous ceux comme moi qui ont envie d'y évoluer. Alors mon objectif, ça va être de remettre mes connaissances, mes jugements en jeu, grâce à ces mentors qui, pendant quelques dizaines de minutes, vont nous donner de précieux conseils, vont nous donner leur philosophie et tout ce qu'ils mettent en place dans leur quotidien et qu'on pourra appliquer, pourquoi pas, à nos propres projets. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter les épisodes sur votre appli de podcast. C'est ce qui me donne le plus envie de continuer. En tout cas, merci d'être là et je vous laisse avec l'épisode de la semaine.
Bonjour, je m'appelle Victoria, j'ai 26 ans et j'ai créé il y a un an Tarif aussi. C'est une galerie d'art en ligne qui montre de jeunes artistes contemporains. Et en fait, on essaye de rendre l'art ludique et accessible. Donc on vend des œuvres à des prix entre 70 et 600 euros, alors qu'en moyenne, une œuvre, c'est 1100 euros. Et on essaye vraiment de casser les codes de l'art contemporain, de faire des petites vidéos pour expliquer les œuvres, de organiser des expos dans des lieux où normalement il n'y a pas d'art, donc des karaokés, des salles de sport, pour essayer justement d'aller vers le public. J'ai fait le constat que le public allait de moins en moins dans les galeries. Et donc là, le but du jeu, c'était d'aller vers eux.
À ton avis, pourquoi ils ne vont pas trop dans les galeries ou qu'ils y vont moins plutôt?
Je pense que c'est assez intimidant d'aller dans une galerie. Et il y a un peu ce truc où c'est assez élitiste. Ouais, c'est très intimidant de franchir le pas d'une galerie. Parce que souvent, d'ailleurs, on ne se fait pas très bien recevoir, ce que je trouve très dommage. Et puis c'est pareil pour l'achat d'art, ça a créé un peu des complexes chez les gens. Et d'ailleurs, quand j'ai demandé autour de moi pourquoi vous avez jamais acheté des œuvres d'art, on m'a souvent répondu parce que je suis pas millionnaire ou parce que j'ai pas fait Sciences Po et donc moi je peux pas comprendre. Alors que je trouve que l'art c'est plutôt une affaire d'émotion et de sensibilité. Et je trouve ça dommage qu'on l'ait mis à un endroit où les gens ne puissent plus y avoir accès en fait.
Tu dis que les prix sont entre 50 et 600, c'est ça?
Ouais.
Ça veut dire que c'est des œuvres originales, des multiples que tu recherches?
La plupart, c'est des œuvres uniques, mais il y a quelques artistes, parce que leur démarche était justement de faire des multiples, je pense notamment à Cyril Galmiche, où là, pour le coup, c'est des sérigraphies qui sont en écho avec son travail vidéo. Mmh. Et donc là, pour le coup, c'est des multiples. Mais sinon, la plupart du temps, c'est des œuvres uniques.
Est-ce que tu as déjà ton écurie ou est-ce que tu recherches encore des jeunes artistes? Comment ça se passe?
Alors, j'ai déjà mon écurie de petites pépites, comme je les appelle. Et donc, pour l'instant, je ne recherche pas de nouveaux artistes. C'est un processus déjà très long de rencontrer les artistes, comprendre leur travail, de pouvoir l'appréhender pour pouvoir l'expliquer. Et en fait, j'essaie quand même d'avoir un catalogue, entre guillemets, assez restreint pour garantir aux collectionneurs la qualité des œuvres et pas que ce soit le supermarché où je propose un peu tout et n'importe quoi.
Ouais, bien sûr.
Donc pour l'instant, non, je ne recherche pas de nouveaux artistes.
Est-ce que c'est toi qui les as trouvés, ces artistes? Est-ce qu'ils sont venus à toi? Comment ça s'est passé?
La plupart des artistes, je les ai trouvés sur Instagram.
Ok.
Avant de monter la galerie, je voulais m'offrir des œuvres d'art ou je voulais en offrir à des gens pour des cadeaux. Alors que je bossais dans le marché de l'art, mais au lieu de faire le schéma classique, je vais dans une galerie acheter une œuvre. Et ben en fait, parce que j'avais pas le temps de me retrouver donc dans mon lit à minuit sur Instagram en train de scroller et pour trouver des œuvres et contacter directement les artistes.
Ouais.
Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et ensuite, je me suis dit mais en fait, c'est fou parce que les gens du marché de l'art, en fait, ils ont pas du tout ça en tête et ils sont encore, l'ancienne génération, elle est encore vernissage, foire, salon, voilà. Et donc quand j'ai décidé de monter à la galerie, j'ai fonctionné de la même façon. C'est-à-dire que j'ai pris Instagram et j'ai scrollé et j'ai fait comme si je voulais m'offrir une œuvre d'art ou offrir une œuvre d'art à des gens. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mes pépites de mon écurie.
Ouais, donc c'est des gens, des jeunes artistes qui n'étaient pas forcément en galerie,
non,
qui avaient...
pas du tout. En gros, c'est vraiment des jeunes artistes qui d'ailleurs n'ont pas tous forcément eu un parcours classique, entre guillemets, donc c'est-à-dire beaux-arts, tout ça. Il y en a certains qui sont autodidactes, pas tous. Il y en a qui ont fait aussi des écoles d'art. Et en fait, je les ai vraiment choisis, c'est très subjectif parce que finalement, je les ai choisis avec mon goût et mon œil. Et donc, c'est aussi un peu ça que j'essaye de montrer aux gens, c'est finalement mes goûts, ce que je trouve intéressant et ma sensibilité. Et aussi, En général, comme c'est des jeunes artistes, ils parlent de sujets contemporains qui me sont... qui me touchent également. Donc, je pense que, notamment au féminisme, à l'écologie, enfin, tu vois, c'est des sujets qui nous entourent et auxquels je suis extrêmement sensible. Donc, voilà, les artistes de ma génération, on parle des mêmes choses. On vit la, ouais. on vit la même vie, on est dans... On vit tous en 2019 au même moment, au même âge, enfin quasiment au même âge, enfin voilà. Et donc c'est pour ça que je trouvais que leur travail aussi était intéressant. Il y avait le côté esthétique bien sûr, mais après il y a aussi le côté discours et intention qui est aussi important pour une œuvre et qui me touche aussi. Et c'est assez important ça, je trouve.
Donc tu as vu des œuvres sur Instagram, mais tout cet engagement qu'il y a un petit peu sociétal, et tu ne l'as pas forcément vu sur l'image des œuvres. Comment ça se...
Ça commence par un coup de cœur esthétique. Donc là, je vois une œuvre, je me dis, ah tiens, ça me touche esthétiquement, je trouve ça intéressant ou joli ou ça me questionne. Et ensuite, je vais rencontrer l'artiste et donc c'est là où on discute et où il m'explique justement son propos, son intention. Et donc c'est là où en gros, entre guillemets, ils arrivent à me séduire dans un sens ou pas. C'est là où je décide de bosser avec eux ou pas d'ailleurs.
Alors j'ai vu un truc récemment là, en 2017 il y avait 52% des acheteurs qui guettaient sur Instagram.
Bah justement je trouve que c'est hyper révélateur ce chiffre. Enfin, t'imagines il y a, je sais pas, 20 ans on t'aurait dit ça,
ah oui,
on t'aurait
c'est
dit
sûr.
Mais n'importe quoi. Genre, donc déjà moi on m'a dit, non mais les gens ils ont besoin de voir les œuvres pour les acheter donc sur internet tu peux pas vendre des œuvres d'art parce qu'il y a quelque chose du toucher, de... Hein, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais alors, comment tu m'expliques qu'on peut acheter des fleurs, du parfum, ou des choses comme ça sur Internet qui, c'est pareil, des fleurs, t'as besoin de les sentir, un parfum, t'as besoin de le sentir, un pull, t'as besoin de le toucher pour voir s'il est doux, et pourtant, on l'achète quand même sur Internet. Mmh. Donc, c'est juste que je pense que notre génération, elle est en train de un peu changer ses habitudes d'achat. Et je trouve que bah, l'art fait partie aussi de ces changements, c'est-à-dire qu'on n'a plus... On n'est plus forcément obligé de voir une œuvre pour l'acheter, physiquement, ouais. Je parle. Une photo peut aussi nous attirer l'attention et faire que voilà, on a un coup de cœur. Effectivement, on l'a pas vu au millimètre près. Et encore, parce que maintenant, il y a des outils où tu peux, avec Internet, voir au millimètre près une œuvre, avec des zooms, quelques innovations technologiques qui font tout ça. Ouais. Et je pense que voilà, c'est important aussi de, que le marché de l'art en fait, prenne le tournant de la révolution digitale. Et je trouvais que le marché de l'art ne l'avait absolument pas fait et qu'ils étaient encore très traditionnels par peur de désacraliser justement l'art.
Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes artistes, par exemple spécifiquement sur leur Instagram? Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues à faire ou à ne pas faire, ou des choses qui t'ont vraiment... tu vois, par exemple, sur le travail de la grille, est-ce que c'est plutôt voir les coulisses, voir les échecs, voir... Enfin, je sais pas.
Bah, en fait, Instagram, c'est qui tout double, je trouve. Parce que soit on voit des profils où on arrive vraiment en train de travailler et on comprend l'œuvre et tout, et d'autres où on comprend pas du tout, mais c'est vraiment parce que ça, c'est censé être le boulot de la galerie, de faire ça.
Exactement.
Et donc, c'est drôle parce que là, les rôles... sont complètement mélangés, je trouve. Parce que justement, avec Instagram, les artistes, ils font leur com, leur marketing et parfois leur vente, ouais. Ce qui est normalement le job d'un agent ou d'une galerie.
En même temps, il y a beaucoup, beaucoup plus d'artistes que de places en galerie.
Ouais. Alors la question, c'est est-ce que les galeries sont là pour faire le tri, entre guillemets, les galeries et les institutions? Est-ce qu'elles sont là pour faire le tri et choisir les meilleurs artistes? Ce qui était le cas, du coup, avant tous ces nouveaux médias. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est une question ouverte. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que maintenant, les artistes ont court-circuité, entre guillemets, le système institution-galerie avec les réseaux comme Instagram, en allant directement vers le public. Et donc maintenant, je trouve que tu dis qu'un artiste a du succès, vend et parfois vit de son art grâce à Instagram parce qu'il a 19 000 followers. Parce que le mec, sur une œuvre, il y a... 3000 likes, et du coup, ça veut dire que c'est le public qui dit si c'est appréciable, beau, intéressant ou pas, et non pas les institutions et les galeries.
Ça t'embête un peu?
Non, je trouve ça très bien.
Ouais.
Mais après, je pense que ça a ses limites, et c'est comme tout. Je trouve ça bien de casser les codes, parce que je pense qu'il y a des trucs qui fonctionnaient pas avec ce système galerie-institution, où finalement c'était quand même assez centralisé, très parisien, en tout cas en France. Et c'est un peu dommage, alors que maintenant, tu as des artistes qui exercent dans Lyon, par exemple, et qui peuvent être visibles de gens partout sans forcément être physiquement dans une galerie, tu vois, à Paris ou dans un musée, je sais pas où.
Ouais, et puis comme tu dis, bah du coup, tu fais le détour, tu passes pas forcément par les critiques officielles. Ouais. Donc forcément, ça peut amener aussi à avoir des choses qui sont plus surprenantes par rapport à ce que tu pourrais voir en musée.
Bah, je trouve que honnêtement, on voit souvent les mêmes choses dans les musées, dans les galeries et dans les foires. Il y a souvent les mêmes artistes. Finalement, c'est très peu de jeunes artistes qui ont beaucoup de mal à se faire une place dans le marché.
Alors qu'on entend souvent jeunes artistes, artistes émergents, enfin c'est des
termes... Ouais, mais en fait, ils ont 50 ans et en fait, ça fait 30 ans qu'on les voit. Donc en fait, c'est plus des jeunes artistes. Et les jeunes artistes, c'est les artistes qui sortent d'école, pour moi, qui essayent de faire leur trou, qui essayent de vivre de leur art, ce qui est super dur. Et il y a très peu, finalement, d'institutions ou de bourses ou de choses comme ça pour soutenir les jeunes artistes. Et je pense notamment à une de mes artistes qui demandait un atelier à la mairie de Paris, parce que tu sais, ils ont des ateliers. Elle a 32 ans, ça fait plus de 10 ans qu'elle bosse voilà, sur son travail, qu'elle fait ça à plein temps, qu'elle a un boulot alimentaire pour essayer de subvenir, parce qu'évidemment, elle peut pas pour l'instant vivre de son art. Et qu'on lui a répondu « Non, mais vous êtes trop jeune, c'est pas assez mature votre travail, revenez nous voir dans 10 ans. » Juste. Est-ce que quelqu'un peut vraiment soutenir les jeunes artistes sans leur dire qu'ils sont pas assez matures? En fait, ça veut dire quoi? Faut crever de faim et avoir 60 ans pour avoir une création qui est intéressante. Faut les soutenir dès le début, en fait, dès le moment où ils sortent d'école, où faut les diffuser, faut les promouvoir. Et en gros, c'est ce que j'essaye de faire moi avec T'arrives aussi, c'est de les soutenir, en fait, de les montrer, de promouvoir leur travail et d'essayer justement de faire leur communication, leur promotion et le côté commercial en essayant de vendre leur œuvre pour qu'un jour ils puissent vivre dignement de leur travail. En fait, c'est ça l'idée derrière tout ça.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage des gens qui achètent, si t'arrives aussi? Est-ce qu'il y a...
Un profil type?
Ouais.
En fait, je dirais que majoritairement, parce que c'est vraiment les personnes que j'ai essayé de cibler, les amateurs d'art en barre, comme je les appelle, de T'arrives aussi, c'est plutôt des gens jeunes, entre 20 et 40 ans. C'est souvent leur premier achat d'œuvres d'art. Et surtout, ils sont néophytes dans le sens où ils ont, en général, jamais acheté une œuvre d'art. Ça, c'est un peu le combat que je mène. Et donc, je suis ravie quand ils me disent que c'est leur premier achat parce que je me dis, mais trop cool. Ça veut dire qu'ils ont passé les barrières.
Ouais. Psychologiques
liées à l'achat d'œuvres d'art. Et ça y est. Ils ont fait, et d'ailleurs souvent ils rachètent parce que ils se sont dit mais quel bonheur d'avoir acheté ma première œuvre d'art. C'était beaucoup plus cool de s'acheter une œuvre à 150 euros d'une jeune artiste qui fait du collage que de m'acheter un jean à 150 euros si ils s'achètent des jeans à 150 euros. Ou finalement quand je le mets je m'en fous, ça change rien. Alors que quand je regarde mon œuvre tous les matins chez moi qui est accrochée dans ma cuisine, je me dis bah déjà ça me fait tellement plaisir parce que c'est unique et il y a que moi qui l'ai. Et en plus j'ai encouragé une jeune artiste à continuer de créer, à les encourager à continuer leur travail, leur recherche et de continuer leur carrière artistique. Et mais voilà, juste égoïstement aussi, je pense qu'ils sont ravis d'avoir quelque chose d'unique qui les reflète et qui il y a que eux qui l'ont. Et donc le profil type c'est plutôt jeune, néophyte. En fait, c'est juste ça que je dirais pour les définir.
Et est-ce que c'est des gens qui, en général, ont un bagage culturel?
Pas forcément. Mais je pense notamment à des gens qui bossent beaucoup, qui font des jobs où ils finissent à pas d'heure et tout, qui ont concrètement pas le temps, tu vois, d'aller se faire tous les musées, et le week-end ils dorment. Enfin, en fait, dans une vie contemporaine, concrètement, je vois pas trop comment tu peux faire pour trouver du temps pour te consacrer à la culture, entre guillemets. Sauf si c'est vraiment sous ton nez et que t'as pas le choix de le voir. Il faut vraiment avoir une appétence et faire un gros effort, finalement, pour dégager du temps, pour pouvoir aller faire des expos. Déjà, il faut avoir un musée à côté de chez soi, ce qui est pas forcément toujours le cas. Et il faut avoir du temps, en fait.
Il faut habiter dans le troisième, quoi.
C'est ça. Et même quand t'habites dans le troisième, et je pense notamment à un collectionneur qui, d'ailleurs, habite dans le quatrième, mais qui est avocat, bah lui en fait il finit à minuit, donc concrètement il aurait même pas le temps de passer un vernissage, et le week-end bah il a pas très envie d'aller se mettre à réfléchir à des œuvres trop compliquées où on lui explique avec un langage parfois trop compliqué ce que
ouais.
le propos d'une œuvre, alors qu'en fait finalement c'est super simple. Parfois on fait beaucoup de phrases et beaucoup d'explications pour une œuvre alors que non, le propos, déjà est-ce qu'on a besoin d'expliquer une œuvre d'art bac philo 2019? Question.
Oui, j'ai vu ça. Qu'est-ce que t'en penses de ça?
Honnêtement, je pense qu'il y a des œuvres qui ont besoin d'être expliquées, mais pas forcément toujours, enfin pas forcément tout le temps. Et en tout cas, enfin ma devise avec Tarive aussi, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'expliquer une œuvre d'art. Et que justement, moi je prône plutôt l'émotion et la sensation plutôt que le concept et l'intellectualisation des œuvres. Parce que je trouve que ça touche beaucoup plus de gens déjà, et que ça permet aussi de casser la première barrière d'accessibilité d'œuvres d'art. Si on dit à tout le monde « Non, mais tu peux pas comprendre si on t'explique pas », du coup, plus personne ne regarde.
Mmh.
Alors que je trouve qu'il faut regarder une œuvre, en fait, se laisser le droit de regarder une œuvre. C'est hyper important. Et c'est ce que j'essaye de transmettre aux gens, en fait. Ils me disent « Non, mais explique-moi et tout », je leur dis « Non, mais déjà, regarde. Est-ce que ça te touche? Est-ce que tu trouves que, tout bêtement, est-ce que c'est joli? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu comprends quelque chose? Et si tu comprends pas, ou si t'aimes pas, pourquoi t'aimes pas? Et donc, ayant cassé cette première barrière de se laisser le droit de regarder une œuvre d'art, là, potentiellement, on peut l'expliquer si explication il doit y avoir. Mais ça dépend aussi de l'artiste. Il y a des artistes qui ont envie qu'on explique et d'autres, non.
Ouais, tout à fait, ouais. D'ailleurs, tu viens d'où, en fait? Tu nous as parlé de ton projet, de Tarive aussi, mais toi, professionnellement, tu viens d'où?
Très bonne question. En fait, j'ai fait des études au début d'art appliqué, parce que je me suis dit que c'était une très très belle idée, que finalement, en fait, non, pas du tout. Et honnêtement, j'étais un peu perdue et je me suis retrouvée à faire un stage dans une galerie pour un job d'été,
okay.
dans une galerie qui s'appelle GB Agency, qui est, je pense, une des meilleures galeries de France, j'ai envie de dire, avec deux femmes qui gèrent cette galerie, qui sont Solène et Nathalie, qui sont, j'ai rarement vu des gens aussi humainement intéressants et sympas, et qui m'ont un peu piqué leur passion de l'art contemporain. Et en fait, elles défendent des jeunes artistes, enfin, qui d'ailleurs maintenant sont plus jeunes, mais en fait, ça fait 10 ans que leur galerie a été créée, donc c'est des artistes en général qui étaient politiquement assez engagés, avec des œuvres assez compliquées d'ailleurs à appréhender, parce que c'est très conceptuel et c'est vraiment de l'art pour des musées, j'ai envie de dire. Plutôt que de l'art qu'on accroche chez soi. Mais elles ont vraiment un cœur de transmettre, en fait. Et c'est ça qui m'a vachement touchée chez elles, c'est la façon dont elles parlent des œuvres à n'importe qui, n'importe quand, tout le temps, même si c'est des gens qui vont pas acheter, même si c'est un enfant de 5 ans, même si c'est n'importe qui, en fait, elles leur parlent de la même façon des œuvres. Et c'est ce truc de médiation culturelle que je trouve beaucoup de galeries n'ont pas et que elles ont. Bref, j'ai travaillé pour elles, je me suis dit « Ok, je vais faire ça comme métier dans ma vie, c'est génial, je les adore, je les idolâtre, moi je voudrais être ça quand j'ai 40 ans. » Et mais je me suis dit « Bon, il va peut-être falloir attendre un petit peu d'avoir un peu de sous et d'économiser et de faire un peu son nid dans le marché de l'art avant d'être galeriste, ce qui était du coup mon rêve. » Et donc après, j'ai fait des études du marché de l'art, j'ai fini par faire plein de stages et plein de boulots dans des galeries, dans le Marais, même à Londres, enfin un peu partout. Et j'ai fini par atterrir dans une maison de vente aux enchères qui s'appelle Arcurial, où j'ai bossé pendant 2 ans. Et donc c'était une super expérience, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré beaucoup de gens intéressants. Et en fait, un été, je me suis dit, c'est très bien ton boulot confortable dans une maison de vente aux enchères, c'est très intéressant, tu mets des jolies chaussures tous les jours, mais est-ce que finalement t'as vraiment envie de faire ça de ta vie? Et là, t'es hyper intéressé par le numérique, il y a plein de nouveaux outils qui s'offrent à toi, t'as envie de le faire, pourquoi tu quittes pas ce job et tu montes une galerie en ligne? Et en fait, ton rêve de devenir galeriste à 40 ans, il change à devenir galeriste à 25 ans. Parce que t'as des nouveaux outils ou t'as pas forcément besoin d'avoir énormément de moyens pour créer ton rêve, en fait, et défendre des jeunes artistes, parce que c'est ça qui me tenait à cœur profondément. Et donc voilà, donc j'ai quitté mon job et créé Tarive aussi.
Okay.
Donc je me suis dit, bon, ça va être moins confortable, ça va être plus risqué, ça va être... Et puis finalement, c'était un métier que je ne savais pas faire du tout, mais j'avais vu d'autres gens le faire. Et je me suis laissé la chance et finalement, ça se passe bien.
Qu'est-ce que tu as appris du coup de toutes ces expériences que tu as eues avant et qui te servent maintenant comme, en tant que galeriste?
La chose qui m'avait marquée, c'est ayant commencé à bosser assez jeune, je voyais vraiment un fossé générationnel entre moi qui bossais dans des galeries classiques, entre guillemets, et les gens qui dirigeaient ces galeries classiques, où en fait, ils n'avaient pas du tout en tête ce que la nouvelle génération était en train de vivre, je pense, à la révolution numérique. En fait, c'est ça qui nous différenciait avec l'ancienne génération des galeristes classiques. En fait, moi, je voyais toute la révolution numérique nous arriver dans la gueule avec tous ces Snapchat, Facebook, Insta, tous ces trucs où finalement, on finissait par passer beaucoup de temps sur ces réseaux et ça commençait à transformer beaucoup de nos habitudes. Et en fait, les galeristes, ils voyaient pas du tout ce changement. Et en fait, ils pensaient que c'était réservé à d'autres secteurs. Qu'en tout cas, ça touchait pas à l'art et l'art contemporain encore moins. Alors que moi, franchement, j'hallucinais. Je trouvais ça fou. C'est ce fossé générationnel d'habitudes d'achat, de fonctionnement, de même marketing, de communication, d'approche des choses. Où je me suis dit, waouh, non, là, il y a un problème. Et en fait, moi, je veux pas faire comme ça. Et en fait, je veux faire une galerie qui ressemble à ma génération, avec mes habitudes, avec ce qu'on regarde, ce qu'on aime, comment on fonctionne en fait. Je pense qu'on n'a pas du tout le même fonctionnement que les gens... Enfin, je parle des millennials. Tu sais, cette nouvelle génération qui est tout le temps insatisfaite, qui veut avoir un impact, qui veut donner du sens à sa vie. Et donc, je trouve que d'ailleurs, c'est un peu de donner du sens à sa vie que de soutenir de jeunes artistes.
Donc, tu crois qu'il y a des... qu'il y a beaucoup plus de gens de ta génération qui vont acheter de l'art?
Non, je pense que les millennials, ils mettent d'ailleurs plus de temps à acheter une œuvre que les gens qui ont 20 ans de plus, parce que justement, ils veulent donner du sens, avoir un impact, et donc ils achètent moins en claquant des doigts. Tu vois, il y a moins ce truc de consommation rapide, peu réfléchi et... Non, je trouve que les millennials, ils prennent beaucoup de temps, ils voient, ils reviennent, ils réfléchissent, ils en parlent, ils se demandent si est-ce que c'est vraiment le bon choix, parce que je vais pas en acheter 1000. Puis il y a un truc de moyen aussi. Finalement, une œuvre à 400 euros, c'est une œuvre d'art pas chère, mais ça reste 400 euros, c'est quand même beaucoup.
Oui, bien sûr, ouais.
Donc il y a aussi ce facteur financier, quand on commence dans la vie, on n'est pas forcément prêt à mettre 400 euros pour une œuvre d'art. En fait, c'est des choses que tu peux pas faire. Et genre, moi, il y a plein de trucs que j'aimerais trop faire, mais que je peux pas faire pour des questions financières.
Par exemple?
Genre, j'aimerais trop plus participer à la production, tu vois, d'œuvres.
Parce que là, concrètement, en ce moment, tu as des artistes que tu as sélectionnés, c'est bon, tu les as. Oui. Tu essayes de leur organiser des expos?
Oui.
Personnelles, collectives?
En gros, ça dépend. En fait, l'idée, c'est que déjà, on essaie d'organiser des expos dans des... Comme on n'a pas d'endroit physique, on essaie d'organiser des expos dans des endroits où, normalement, on montre pas de l'art, des endroits un peu hors du commun. Donc, on a fait une expo dans un karaoké, dans une salle de sport, dans un chantier désaffecté. Enfin, un peu dans des endroits insolites où c'est plus le public qui vient à nous, mais c'est nous qui venons au public dans les lieux où ils ont l'habitude d'aller. Donc, dans un restaurant, dans un bar, dans voilà, ce genre d'endroit. On a fait pour l'instant 7 expositions et donc ça dépend vraiment des projets, mais c'est soit des expositions collectives ou alors des expositions personnelles. Et tu vois, la dernière expo qu'on a fait, c'est une expo de Fanny Garnicha, donc c'est une exposition personnelle où on a fait toute une installation dans un café qui s'appelle Rue de Manners, où on a agrandi les motifs de ses collages sur du papier peint. Donc on a installé sur 3 murs. Et en fait, au-dessus du papier peint, on a accroché les œuvres avec du coup les mêmes motifs, mais à taille réelle, qui étaient sur le papier peint. C'était hyper intéressant parce que il y a des mecs qui venaient le matin prendre leur café dans cet endroit, et ils pensaient pas que ce jeudi matin, ils allaient tomber sur une expo. Ils prennent leur café, et là, ils se retournent, et ils voient une exposition d'une jeune artiste contemporaine qui s'appelle Fanny Garnicha. Ils prennent 5 minutes, s'ils veulent, ou plus, et ils peuvent découvrir une installation d'art contemporain dans un café. Ce qui, normalement, n'était pas censé arriver dans leur journée de ce jeudi.
Ouais. Et t'as pas peur que... Enfin, je sais pas comment dire ça, mais quand j'étais aux Beaux-Arts, il m'est arrivé d'entendre « fais attention à ne pas faire de l'art de pizzeria ». Comment tu te positionnes par rapport à ça ?
Je comprends les peurs de que l'art, ça devienne pas sérieux si c'est pas montré dans des endroits qui sont faits pour ça. Et en même temps, je trouve ça tellement dommage de le mettre dans des cases parce que déjà, donne-moi une définition de l'art. C'est vaste, c'est super dur à définir et justement, c'est pour ça que c'est intéressant. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est pluriel, ça parle de plein de sujets. Et en tout cas, pour moi, l'art contemporain, la définition, c'est que ça parle justement du quotidien et de notre époque contemporaine. Et donc, c'est le reflet de ce qu'on est tous en train de vivre. Donc, je vois pas pourquoi on devrait pas le montrer dans des endroits dans lesquels on vit aussi, en fait. Je trouve pas que ça desserve le travail. Après, c'est la façon de le faire, je pense, qui change. Moi, je le fais de façon sérieuse. J'explique aux gens, s'ils le souhaitent, les œuvres. Donc, il y a aussi un travail de médiation qui est assez important et de communication, en fait, aussi, envers le public. Donc, non, moi, j'ai pas peur de faire de l'art de pizzeria et je trouve que ça me fait beaucoup rire quand il y a des gens que ça choque que je fasse une exposition dans un karaoké. C'est typiquement l'ancienne génération qui fait des grands yeux.
Ouais.
Quand je leur dis ça. Et qui me disent, oh, mais attends, mais comment tu vas faire? Ça fait très boutique pour vendre des chaussettes. Et en fait, je trouve qu'on a beaucoup peur de désacraliser l'art. Je sais pas pourquoi déjà on l'a sacralisé en premier lieu. Et non, en fait, il faut le désacraliser parce que sinon il n'y aura plus du tout de public. Ou alors ça sera réservé à une élite. Ce qui n'est pas le but du jeu, je pense. Donc, non.
Et là, du coup, est-ce que tu trouves d'abord le lieu et ensuite tu sélectionnes un artiste? Est-ce que tu dis, bon, bah, c'est à toi et puis toi, tu fais quelque chose là? Comment ça se passe?
En fait, chaque projet est réfléchi. Donc déjà, c'est toujours de la dernière minute pour l'instant. Donc vraiment, c'est pratique. Comme on est une jeune galerie, on n'a pas forcément beaucoup de moyens et tout, c'est vraiment les opportunités qui s'offrent à nous. Elles sont souvent un peu de dernière minute. Et donc, en général, je trouve un endroit. Et ensuite, je décide du projet et de l'expo à mettre en place. Donc, par exemple, je pense notamment à l'expo qu'on a fait sur un chantier désaffecté. On m'a dit, tiens, t'as les clés d'un chantier pendant 10 jours, t'en fais ce que tu veux, mais t'as 10 jours, donc c'était vraiment très court. Je suis allée voir le lieu, j'ai réfléchi à ce qu'on pouvait y faire et j'ai invité du coup deux de mes artistes, Cyril Galmiche et Julie Savoie, à intervenir dans l'exposition, enfin dans le lieu. Et donc c'est à partir de ce moment-là on a réfléchi à la scénographie de l'exposition, à voilà, faire tout le commissariat finalement d'une expo. Et donc non, c'est vraiment le lieu qui, entre guillemets, choisit quel projet on va mettre en place.
Et sinon, c'est quoi c'est quoi qu'on a dans la tête quand on se lance et je pense que les artistes se rendent pas compte des emmerdes que t'as quand t'es galeriste.
Donc là, tu me demandes la question quand je me couche ou quand je me lève dans ma tête?
Bah, les deux. Alors, c'est quoi les problèmes avec lesquels se lève un galeriste?
Non, mais en général, quand je me lève, moi, j'ai envie de faire 1000 choses. Et donc, parfois, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de temps. Et ça, c'est comme tout le monde. Donc, quand je me lève, j'ai envie de faire 1000 projets, de lancer plein de pistes, de bosser avec des nouveaux artistes, faire plein de nouvelles expositions, faire plein de nouvelles vidéos de promotion pour justement éduquer les gens, pour transmettre en tout cas ma passion. Et en fait, concrètement, j'ai pas assez de temps. Franchement, on se heurte à plusieurs choses. C'est que je manque de moyens, je trouve, pour pouvoir pleinement faire des projets de façon zen et détendue. Et en même temps, c'est ça qui est un peu excitant, c'est de faire des projets last minute où tout le monde nous dit c'est mission impossible, jamais vous arriverez. Et en fait, finalement, je touche du bois, mais on a toujours réussi. C'est des parties du challenge et du jeu, ce côté un peu excitant où on se couche à pas d'heure pour installer une exposition et en même temps, quand on regarde, on se dit putain, bah ouais, je sais pourquoi je me suis couchée à 4h du mat et que j'ai dormi 2h. Parce qu'en fait, c'est sublime et je suis tellement fière de ce qu'on a réussi à faire avec si peu de moyens. Ouais, les problèmes principaux, c'est qu'on manque de moyens, de temps et de visibilité. Je pense que ça, c'est aussi un des problèmes, c'est que il faut réussir à se montrer, à qu'on parle du projet, qu'on parle des jeunes artistes. Et en fait, mon job aussi, c'est que je tanne les gens pour qu'ils parlent des jeunes artistes, en fait.
En fait, ton taf, toi, c'est de trouver des endroits sur le web, en physique, pour montrer tes artistes.
Ouais. C'est là où ça change d'une galerie classique. C'est que j'ai pas d'endroit physique, donc je suis obligée de déployer beaucoup plus d'énergie pour organiser des expositions, pour avoir, c'est bête, mais des articles de presse. Parce qu'en fait, les gens, ils savent pas tellement où me mettre. Tu vois, c'est un peu comme c'est une nouvelle façon d'appréhender le métier de galeriste. Et du coup, les gens, en fait, ils savent pas trop, ils ont un peu perdu leur repère. C'est pas, vernissage de la galerie Schmulblück le 3 juin à telle adresse, parce que c'est la même adresse depuis 15 ans. Mmh. Là, à chaque fois, ça change d'adresse, ça change de lieu, c'est plus le même concept. On change tout, enfin. Ça perd les gens parce qu'ils perdent leur repère du métier traditionnel.
Et t'en connais, toi, d'autres galeristes qui travaillent de la même manière que toi?
Ouais. On commence à être un petit peu, et d'ailleurs, je suis assez fière parce que, enfin, celles que je connais, en tout cas, c'est que des femmes.
Ah ouais?
Ouais. Et donc, je trouve ça vachement bien. Je pense notamment à deux autres galeries qui s'appellent Willow & Grove et Maison Amélie. On n'a pas du tout le même œil et on ne travaille pas de la même manière. Et on se développe d'ailleurs toutes les trois de façon très différente. Mais le principe est le même, on essaye toutes les trois de rendre l'art accessible. Donc ça, je trouve que c'est un combat qui est un bon combat.
Ouais.
Et ouais, c'est des femmes jeunes qui mettent de l'énergie pour défendre de jeunes artistes qu'on voyait pas d'habitude. Et du coup, je trouve que c'est très bien.
Et bon, je suis pas experte, hein, mais je sais qu'il existe plusieurs comités, rassemblements, regroupements de galeries.
Ouais.
Est-ce qu'il en existe spécifiquement pour les galeries en ligne?
Non, mais on va y penser.
Ah ouais?
Ouais.
T'es déjà dessus?
Non, mais moi j'ai beaucoup réfléchi à ça et je pense que c'est toujours important de réunir ses forces. Et donc c'est marrant que tu me dises ça parce que récemment je me suis vraiment dit il faut absolument organiser un regroupement justement de personnes qui ont des métiers dans l'art, des nouveaux métiers entre guillemets.
Exactement.
Ouais.
Parce qu'il existe un peu des plateformes effectivement de vente.
Ouais.
Il existe les galeries traditionnelles. Mais c'est vrai que c'est d'ailleurs, même moi je m'y perds avec tous ces nouveaux métiers.
Ouais. Il y a plein de métiers comme ça, de gens qui sont conseillers. Je pense à une fille aussi qui aide des boutiques à acheter des œuvres d'art. Enfin, il y a plein de gens que j'ai rencontrés là au fil de mon projet qui font plein de métiers connectés avec finalement le mien. Et je me dis qu'on devrait trop faire un petit déj tous les jeudis où on se rencontre et
ouais.
On parle. De notre boulot, de s'aider mutuellement, tu connais pas un tel, machin, tu vois.
Faut que je réfléchisse. Le brunch des.
Ouais.
Bah ouais, forcément se regrouper, mais même en tant qu'artiste, c'est hyper important. Je me rends compte, moi, avec l'asso, les artistes, ils ont du mal à se regrouper, même s'ils ont envie.
Bah souvent, c'est des personnalités quand même qui sont assez fortes. Il y a beaucoup d'ego aussi.
Chez les galeristes aussi?
Bah encore pire. Non, mais les deux, je pense que c'est des métiers où c'est tellement compliqué de se faire une place que si on n'a pas un fort caractère et beaucoup d'ego, on peut pas y arriver. Enfin, c'est ce que je me suis dit. En tout cas, c'est le constat que j'en ai un peu fait. Alors, tu vois, les galeristes qui ont réussi, c'est des gens qui, en général, sont assez sûrs d'eux et qui sont sûrs de... En tout cas, parce que c'est aussi ça qui est important, c'est qu'il faut être sûr de ses choix et du coup, de ce qu'on est pour être sûr de ses choix.
Ouais, c'est exactement ça aussi. Tu disais tout à l'heure que toi, t'arrives avec, t'as sélectionné tes artistes avec ton œil.
Oui.
Quelque part, on va finir par venir te voir à cause de ça.
C'est un peu ça l'idée. Enfin, je sais pas comment dire ça de façon pas prétentieuse, mais effectivement, je me suis rendu compte qu'il y a quand même un style, ou en tout cas, il y a une patte de choses qui me touchent. Et donc les gens qui viennent me voir, effectivement, ils viennent voir ce style, cette patte-là.
Donc il y a des gens qui reviennent à tous tes événements?
Il y en a certains, ouais. Il y a des aficionados, mais ça change. C'est un peu, ça dépend de où c'est, quand c'est. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui viennent parce que c'est à côté de chez eux, et d'autres qui viennent pas parce que c'est trop loin. Enfin, il y a. Ouais. Tu vois, il y a un peu ces données-là aussi. Mais bon, pour l'instant, c'est que à Paris, les expos, donc c'est en général quand même les mêmes gens.
Donc là, ça fait un an et 6 mois que t'es lancé, non?
Ouais,
ah, c'est
un
ça.
Peu moins, ouais.
Et est-ce que tu bosses avec d'autres acteurs du milieu de l'art, des critiques, des écrivains? Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu bosses?
Pas trop. J'ai des partenaires, notamment pour louer des œuvres d'art. Je pense à Art Collector Invest.
Donc tu leur apportes des artistes ?
Non, c'est-à-dire que eux, c'est une solution pour louer de paiement, pour louer des œuvres d'art pour les entreprises. Donc c'est un partenaire en fait commercial où finalement, moi, si je vends une œuvre à une entreprise, je peux leur proposer de travailler aussi avec Art Collector Invest pour que l'entreprise loue puisse louer les œuvres.
En fait, c'est un service. Tes œuvres, enfin les œuvres de tes artistes.
Ouais. Parce que moi, c'est un service que je n'offre pas, alors que eux, ils travaillent avec des banques et c'est leur métier. Donc, en fait, ça, c'est tout ça aussi pour toujours encourager l'achat d'œuvres d'art, même pour les pros, tu vois.
Ouais.
Je bosse pas trop avec des commissaires, des critiques et tout, parce que je suis un peu hors.
Hors cadre institutionnel.
Bah ouais. Et du coup, honnêtement, j'ai pas cherché à le faire, mais quand j'en ai croisé et que on a parlé de tarifs aussi. Ça les intéresse pas non plus parce qu'effectivement, ils ont aussi peur que ça fasse art de pizzeria.
Ouais.
Ils sont pas forcément intéressés, je pense. Mais c'est pas grave, on fait notre truc de notre côté.
Ouais, faut faire ses preuves, quoi.
Enfin, non pas qu'on ait besoin de personne, mais pour l'instant, ça fonctionne très bien comme ça. Et si un jour, on doit collaborer avec des commissaires, moi, je serais ravie. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir un œil, tu vois, nouveau, justement, sur le travail de nos artistes. Mais pour l'instant, ça ne s'est pas profilé comme opportunité.
À chaque fois que tu fais une expo, c'est toi qui payes la...
Une partie, ouais.
Et même de la production ?
Non. Mais non. Une partie des frais. Par exemple, bah, tu vois, là, on a fait une expo avec Fanny. Il y avait une trentaine d'œuvres. Il y a des cadres à payer. Donc, tout ce qui est encadrement, c'est quand même des frais assez importants. Quand on fait un vernissage, il y a forcément un cocktail et donc des frais de vin, de... trucs à grignoter, etc. Là, pour le coup, on avait des frais aussi. C'est pas des choses énormes, mais en fait, tout mis bout à bout, ça fait quand même une petite somme à chaque fois pour les expos. Et surtout qu'en fait, à chaque fois, on doit réaménager l'espace. Et donc, tu dois aller acheter, une tringle parce que cet endroit-là, il n'y en avait pas. Et puis du coup, tu dois aller louer aussi une perceuse pour pouvoir faire ce truc-là. Ou notamment, je pense, à l'exposition chantier. On a loué des lumières parce qu'il y avait, il y avait rien, donc il fallait louer des lumières, des prises, voilà, refaire toute l'installation, donc qui engendre des frais.
T'écris des textes aussi ?
Ouais, j'écris des textes pour toutes les expos. En fait, concrètement, c'est moi qui écris tout. Donc j'écris leur biographie pour le site. Et donc il y a 10 lignes sur chaque artiste, c'est très court. J'essaye de pas utiliser de jargon de l'art contemporain. Et en fait, en 10 lignes, j'essaye de qu'on ait une piste pour rentrer dans le travail de l'artiste, mais que ça reste quand même ludique.
Ouais.
Et ensuite, j'écris des textes pour les expos, pour expliquer plus précisément et pendant, de façon un peu plus longue, le travail de l'artiste et en tout cas son propos. Mais en fait, je sais que personne ne lit jamais. Du coup, c'est hyper frustrant.
Ah oui.
Mais je mets beaucoup de temps pour faire ça et parce que je trouve que c'est important aussi, tu vois. C'est-à-dire que j'essaie que ce soit assez simple et ludique et de pas utiliser de jargon. Et en même temps, parfois, on a envie de dire des choses où finalement, c'est obligé d'être un petit peu compliqué ou dit de façon avec des mots un peu plus spécifiques parce qu'on parle de quelque chose de très spécifique.
Et alors, peut-être deux dernières questions pour finir un petit peu. Alors peut-être que t'as pas tellement l'habitude que les artistes viennent te voir encore, mais t'as peut-être si. Alors, par rapport à ta pratique, à ta rive aussi et dans tes boulots précédents, quelles sont les choses que les artistes font pour approcher une galerie qu'ils ne devraient absolument pas faire ?
En fait déjà, je pense que, et c'est très dur à entendre, mais je pense que ça sert à rien d'aller voir une galerie.
Tout simplement.
Ouais. Parce que je pense que c'est la galerie qui doit venir aux artistes plutôt que les artistes qui viennent aux galeristes. Et honnêtement, déjà, moi, très modestement, ça fait un an que j'ai créé le site, je reçois déjà beaucoup de choses.
D'artistes qui
m'envoient leur dossier et qui veulent qu'on collabore. Et en fait, je regarde évidemment ce qu'ils font. Parfois, ça me touche et tout. Et d'ailleurs, je pense à une artiste avec qui j'ai travaillé, ça s'est fait comme ça, c'est elle qui m'a approchée. Mais en général, c'est moi qui ai besoin d'avoir un désir de travailler avec eux plutôt que de sentir que c'est l'inverse. Parce que c'est très personnel et que, comme je te dis, c'est mon œil et c'est mes émotions et ma sensibilité qui choisit les artistes avec qui je veux travailler. Et donc, ça marche pas comme ça quand on m'envoie un dossier, j'ai du mal en général.
Donc ça veut dire que si on veut t'approcher, on peut rien faire, quoi. Toi ou une galerie, hein, enfin.
Ouais, je pense que c'est hyper dur, honnêtement, en tant qu'artiste, pour approcher quelqu'un. Ça marche toujours mieux quand on se rencontre en vrai, honnêtement, plutôt que d'envoyer un mail. Et d'ailleurs, je reçois des mails où je sais qu'il l'a envoyé à 15 autres personnes. Et donc.
Ça, c'est même pas la peine.
Ouais. Bah ça, je me dis oui, ils veulent vendre leur travail et je comprends et heureusement. Enfin voilà, c'est le but du jeu. Mais si c'était moi, si c'est moi ou n'importe qui d'autre. Ils s'en fichent et donc ça, j'avoue, ça me touche pas trop. Mais en revanche, quand on vient me rencontrer, qu'on m'explique, qu'on me montre en fait aussi.
Et à quel moment on peut venir te rencontrer?
Bah notamment pendant les vernissages, pendant les expos qu'on organise dans des lieux. Il y en a un ou deux qui sont venus me rencontrer à ces occasions-là. Ça n'a pas forcément marché, mais en tout cas, je me souviens d'eux.
Ok. Eh, hey, tu crois que c'est un... Ah bah tu vois, j'aurais pas cru. J'aurais pas cru que le vernissage était un bon moment pour approcher un galeriste, quoi.
Bah, plutôt fin de vernissage.
Ah oui, d'accord.
Mais non, si, parce que faut pas se leurrer aussi, c'est un métier où le contact humain, il est hyper important. Et tu vois, quand je travaille avec des artistes, j'ai aussi envie de les défendre corps et âme parce que dans le fond de moi, je les aime profondément aussi et que j'aime leur travail et que j'aime la personne, en fait, derrière ça. Sinon, j'aimerais pas le travail. Tu vois, c'est ce qu'on a dit. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que finalement, les œuvres d'un artiste, ça reflète sa personnalité et qui il est, etc. Donc finalement, si j'aime les œuvres d'un artiste, forcément, j'aime aussi sa personnalité et qui il est.
Okay.
Donc je donnerais comme conseil d'aller les rencontrer physiquement, de se présenter avec un grand sourire et quelques images de son travail, une carte.
Ok, super. Et dernière question avant de se quitter. C'est quand qu'on peut vous voir?
La prochaine fois?
Ouais.
Ah non, là, je...
Il n'y a pas de...
En gros,
c'est la surprise!
C'est des projets secrets. Mais en gros, on est sur un projet pour octobre. Mais okay. Je ne peux pas en parler.
Donc on va sur les réseaux, on va sur les réseaux pour le savoir exactement.
Donc pour nous voir, en fait, il faut suivre notre actualité sur Instagram avec sur notre compte tarivossi.galerie ou alors sur notre page Facebook qui s'appelle Tarivossi. Et vous pouvez aussi vous inscrire sur la newsletter sur notre site. Et donc là, vous recevrez toutes les news et les infos et l'invitation pour le prochain vernissage.
Finalement, c'est un peu comme une rêve partie, quoi. Tu t'attends le coup de téléphone et puis tu sais pas dans quel champ ça va se faire.
Il y a des lieux secrets.
Ouais.
Et en fait, on peut pas tout dire parce que parfois, c'est pas dans les règles. Mais c'est ça qui est drôle aussi.
Ah ben super. Donc ça pousse à s'inscrire à la newsletter. Super, merci.
Merci, Leslie.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à le dire à l'interviewé dans ses réseaux sociaux. Je vais mettre les liens en description. Ça lui fera super plaisir. Ça permet de faire savoir que l'art, c'est les autres, est écouté. Et puis vous-même, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à faire des feedbacks, c'est hyper important pour moi. À proposer des invités aussi, ou des sujets qui vous intéressent. Et puis je ferai mon possible pour vous répondre et échanger avec vous. Si vous êtes artiste et que vous avez envie de nous rejoindre dans le collectif Pigeon et Hirondelle, n'hésitez pas à nous laisser un message sur Instagram ou sur Facebook. Donc pigeon.hirondelle. Le tout au pluriel, ou bien sur notre site www.pigeon-hirondelle.fr. On sera super content d'en parler avec vous, de vous présenter toutes nos actions et pourquoi pas de vous compter parmi nous. Si vous connaissez quelqu'un à qui ce podcast peut plaire, je vous invite évidemment à le partager sur les réseaux. Ça permet à de plus en plus de gens de connaître le podcast. Et puis moi, ça me fait du bien. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.